Bonjour à tout le monde. Plus tard, jadis, avait fait des vies parallèles. Je pense que deux décès aujourd'hui permettraient de faire des vies parallèles tout à fait intéressantes sur l'histoire de France contemporaine. Mais ceci est une autre histoire. Et ce matin, j'ai le grand plaisir de vous présenter M. Bernard Rougier, que je suis depuis fort longtemps, puisque il a été jadis mon étudiant à l'Institut national des langues et civilisations orientales, donc dans un autre millénaire. Ensuite, il a gravi le cursus honorum de façon parfaite, lauréat du prix Michel Sora, puisque à l'époque c'était un prix, me semble-t-il. Ensuite, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, et puis maître de conférence à Clermont-Ferrand, si mes souvenirs sont bons, en sciences politiques, et puis ensuite au Collège de France, finalement directeur du Centre d'études et documentation économique et juridique du Caire, et plus récemment professeur à l'Université de Paris 3 et membre de l'Institut universitaire de France. Donc c'est exactement tout le cursus honorum de ce qu'on peut attendre d'un jeune universitaire sur ces dernières années. C'est aussi un exceptionnel chercheur de terrain, comme j'en ai pu témoigner, parce qu'il me donnait des angoisses quand il était sous ma responsabilité administrative au Proche-Orient, puisqu'il traînait ses guêtres dans des camps palestiniens. Donc, par exemple, son espoir avait été de commencer une étude sur un camp palestinien de Nahr el-Bared, dans le nord du Liban. Et il avait donc vu ça avant l'arrivée des djihadistes. L'arrivée des djihadistes, il n'est pas resté pendant les djihadistes qui ont pris le contrôle du camp, c'était l'insurrection de Nahr el-Bared qui a duré plusieurs mois. Et ensuite, il est revenu après. Et donc, avec tous les contacts qu'il avait, il a pu suivre extrêmement attentivement tout ce qui s'était passé sur un mouvement djihadiste, comment il s'était installé, etc. Et ensuite, comment il avait été éradiqué par la force. Et il avait eu honte. Et les Libanais lui avaient transmis les dossiers de justice qu'il avait donc pu comparer à ses enquêtes de terrain, ce qui nous a valu un remarquable livre qui s'appelait « Le djihad au quotidien », qui était donc l'étude d'un mouvement djihadiste du début jusqu'à la fin. Pratiquement, c'était Fatah al-Islam, pour ceux à qui cela dit quelque chose. Et c'est un peu le sujet de sa communication d'aujourd'hui, puisque si j'ai bien compris, tu vas nous parler du djihad afghan et de ses prolongements. Bernard, je te passe la parole.
Merci beaucoup Henri et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré et un peu intimidé, mais je vais essayer d'être aussi clair que possible. Vous savez que, pour revenir sur la période libanaise, et à titre de propos introductif, un ancien responsable de la sécurité libanaise disait « Les chiites nous inquiètent par leur discipline », je pensais au Hezbollah, « et les sunnites nous inquiètent par leur désordre ». Et si j'ose dire, on pourrait même en rajouter un tout petit peu et dire que ce désordre, ce chaos, est largement entretenu, puisqu'il y a encore quelques jours, Ali Abdallah Saleh, l'ancien président du Yémen, a été tué par les houssistes au moment où Ali Abdallah Saleh était en train de devenir l'homme des Saoudiens au Yémen. Je veux dire par là qu'une stratégie iranienne dans la région est d'éliminer les interlocuteurs sunnites institutionnels ou non institutionnels, en tous les cas non islamistes, pour dire ensuite aux Occidentaux, vous voyez, on est là parce que ces gens ne sont pas fréquentables. Et il y a une politique iranienne d'élimination des personnalités civiles, politiques, sunnites, de Hariri jusqu'à Ali Abdallah Saleh, qui est assez cohérente. Donc il y a une politique du désordre. Et pour revenir sur le cadre de ce désordre sunnite, si vous voulez, je crois qu'il faut revenir à la période afghane des années 80. Quand je dis la période afghane, c'est vraiment la réunion de l'Afghanistan et du Pakistan de début des années 80 jusqu'en 1990, voire 92, la chute de Kaboul. Si on est fidèle à l'enseignement méthodologique de Nietzsche, on peut considérer que l'essence d'un phénomène peut se lire à travers les conditions de sa naissance. Et en Afghanistan, on peut considérer au fond que tous les éléments sont réunis à la fin de la décennie 80 pour expliquer la situation présente dans le monde sunnite, en tous les cas dans le monde de l'islamisme sunnite. On a, si vous voulez, une action qui est d'abord liée à un homme qui s'appelle Abdallah Azam, A2ZAM, qui va être le premier à constituer des structures d'accueil pour les volontaires arabes. Et il met en place cette structure d'accueil dans la ville de Peshawar, au nord-est du Pakistan, à partir de l'année 84. Et son idée est de mobiliser le monde musulman autour de la cause du djihad afghan. Il veut convaincre les Arabes au premier lieu, mais les musulmans de façon générale, que la situation en Afghanistan est celle d'un djihad et que les jeunes en particulier doivent se mobiliser, se rendre à Peshawar, puis s'engager sur le terrain militaire en Afghanistan. Si on revient un instant sur l'itinéraire d'Abdallah Azam, on a quelques clés de sa personnalité et de sa vision des choses. C'est un homme qui a déjà une expérience militaire, puisqu'il s'était en 1969 engagé, il avait subi un entraînement militaire dans ce qu'on appelait à l'époque le camp des chers, Mukhayyam al-Shuyur, qui était un camp établi par le Fatah dans la vallée du Jourdain pour entraîner des éléments qui ne voulaient pas se mélanger avec les organisations palestiniennes de gauche, comme le FDLP, le Front de Libération de la Palestine, ou le FPLP, le Front de Libération Populaire de la Palestine. Les groupes radicaux de gauche étaient considérés comme impurs par les plus religieux, et les anciens militants frères musulmans qui étaient Yasser Arafat, Abu Jihad en particulier, avaient créé une structure d'entraînement pour les éléments les plus religieux, qui ne voulaient pas se mélanger avec les groupes marxistes, pour aller vite. Et Abdallah Azam avait déjà subi un entraînement militaire dans l'un de ses camps. Ensuite, en 1970-71, pendant la période dite de Septembre Noir, donc l'opposition entre les Bédouins du roi Hussein de Jordanie et les Palestiniens, Abdallah Azam reste neutre, ne va pas lutter alors qu'il est d'origine palestinienne. Il est né en 1941, près de Jénine, en Cisjordanie. Il est palestinien, mais il ne s'engage pas dans les organisations palestiniennes. Et en quelque sorte, il est récompensé de sa neutralité en étant nommé professeur assistant à l'université de Jordanie, au département de loi religieuse. Il avait obtenu auparavant un doctorat en jurisprudence islamique par correspondance à l'université d'Al-Azhar au Caire. Et pendant sa période d'enseignement, 75-79, à l'université de Jordanie, il est connu pour s'opposer à la démocratie, au processus institutionnel, à l'idée du vote. Il est un lecteur de Sayyed Qutb, donc vous savez, cet intellectuel égyptien pendu par Nasser en 1966, qui avait écrit un livre qui est encore très connu, qui était Ma'alim fil Tariq, donc les jalons sur la piste, traduit par Gilles Kepel par signes de piste, et qui raconte, et qui en gros est le manifeste, l'équivalent du manifeste du Parti communiste, c'est-à-dire que doivent faire les militants islamistes ? Ils doivent d'abord ne pas reconnaître la moindre légitimité à la figure du pharaon, et tous ceux qui ne gouvernent pas selon la loi de Dieu ne sont pas légitimes. Et vous savez que Sayyed Qutb avait introduit un concept qui n'est pas dans le Coran, par ailleurs, le concept de hakimiyya, de souveraineté, en considérant que la seule souveraineté valable est la souveraineté de Dieu, et que toutes les lois votées par les hommes sont donc des lois mécréantes. Et qu'il faut donc combattre toutes les figures des régimes arabes. Et Abdallah Azam est un grand lecteur de Sayyed Qutb et répand ses théories. Il fait même ses cours, selon des témoignages de l'époque, parce que j'ai été aussi lecteur à l'université de Jordanie, pendant 2 ans. Donc j'ai rencontré des témoins de l'époque qui m'ont dit qu'il faisait ses cours en treillis militaire. Il est très charismatique et il a un certain succès auprès de son public étudiant, ce qui lui vaut d'être finalement démis de cette fonction par le gouverneur d'Amman en 1979. Il est membre des frères musulmans jordaniens. Il est dans la frange la plus radicale. Et il va, grâce à ses connexions, enseigner à l'université de Jeddah, du roi Abdelaziz. Puis, il rencontre à cette période où il aurait eu, dit-on, comme étudiant, un certain Oussama Ben Laden. Et il, grâce à ses connexions, également frères musulmans, il rencontre un Égyptien qui lui dit « Il se passe des choses extraordinaires en Afghanistan, tu dois aller là-bas ». Et il obtient un poste de professeur assistant à l'université d'Islamabad, au Pakistan, en 1981. Et c'est pendant cette période qu'il va se passionner pour la situation afghane, qui est relativement marginale, si j'ose dire, dans le monde musulman de l'époque. Et c'est lui qui va contribuer à populariser l'idée du djihad en Afghanistan. Et il va le faire notamment grâce à la publication d'une revue qui s'appelle Al-Jihad, donc le djihad, qu'on peut traduire de façon aussi objective que possible par « combat sacré dans la voie de Dieu ». Et c'est une revue, j'aurais pu vous apporter un exemplaire, qui était vendue à peu près partout. Dans la France de l'époque, le numéro était vendu 5 francs. C'est écrit tout en bas, Belgique, France, Australie, etc. Donc c'est vendu vraiment partout. Et vous avez tous les éléments qu'on voit actuellement dans les techniques beaucoup plus sophistiquées des vidéos et sur les réseaux sociaux. Vous avez des photos épouvantables des enfants en particulier massacrés ou brûlés par le napalm russe. Vous avez des articles de fond, faut-il ou ne faut-il pas tuer les civils. Et puis vous avez l'innovation, la grande innovation d'Abdallah Azzam, c'est l'idée que ce djihad est obligatoire pour tous les musulmans. En arabe, fard ayn, devoir individuel, obligatoire pour tout musulman. Et là, il innove. Parce que la doctrine du djihad dit que le droit de proclamer le djihad revient normalement au chef d'État musulman, conseillé par une instance religieuse, le cas échéant, mais que c'est une décision qui doit être prise par le titulaire de l'autorité légitime, pas par n'importe quel musulman, par un individu, fût-il diplômé de l'université d'Al-Azhar. Et Azzam donc casse, on va dire, cette tradition, et se réclame de la Oumma, de la communauté des croyants, court-circuite les États et les institutions et s'adresse directement à cette Oumma en lui disant « Regarde cette situation atroce de tes frères musulmans en Afghanistan, ton devoir de musulman, c'est de t'indigner d'abord et de te mobiliser. » Et vous savez que dans la structure de l'indignation, il y a 3 éléments, ça c'est dans Descartes. Il y a évidemment la victime, le bourreau, et puis le témoin qui doit intervenir et qui est saisi par la colère. Et précisément, la revue Al-Jihad doit diffuser par l'affect, par l'image, des images très... C'est une revue assez bien conçue. Hein. Ces images sont vraiment épouvantables. Et puis, on a donc la constitution à Peshawar d'un espace de mobilisation, d'un espace de diffusion à travers la constitution de cette revue et, j'allais dire, un espace de subversion dirigé contre des centralités islamiques ou des centralités institutionnelles. Je veux dire par là que Azzam va se rendre en Arabie Saoudite, il fait du fundraising, comme on dit, des levées de fonds, et il va en Arabie Saoudite rencontrer les grands docteurs de la loi de l'institution religieuse saoudienne. Alors, il veut obtenir, évidemment, une légitimation de son effort, de son combat. Les grands oulémas de l'institution saoudienne reconnaissent volontiers que la situation en Afghanistan est celle d'un djihad. Il y a une armée impie qui envahit en janvier 1979 l'Afghanistan et qu'il convient donc de combattre. Mais, en revanche, l'institution saoudienne n'est pas du tout prête à se déposséder, en quelque sorte, du droit symbolique de qualifier une situation comme étant une situation de djihad. C'est ce qu'on a en droit, la capacité de qualification. Parce que si elle le fait, elle se dépossède au profit de n'importe quel croyant de ce pouvoir symbolique considérable. Donc elle ne tient évidemment pas à reconnaître à Abdallah Azzam le droit de proclamer le djihad. C'est un droit qu'elle veut garder pour elle-même, qu'elle maintient au profit du roi, de l'autorité légitime, mais qu'elle ne veut certainement pas céder à un individu privé. Et c'est très intéressant de voir que des oulémas saoudiens écrivent dans la revue Al-Jihad. Ils écrivent que certes, il faut aider le djihad en Afghanistan, mais c'est un djihad obligatoire pour les Afghans seulement, pas pour les autres musulmans. Les autres musulmans doivent aider financièrement, ils doivent en parler, mais ils ne doivent évidemment pas se rendre sur le théâtre de guerre. Donc il y a déjà un vrai clivage et chez les oulémas saoudiens, la perception d'une menace. Ils savent qui est Abdallah Azzam, évidemment, ils le connaissent. Et Abdallah Azzam, en tant que, j'allais dire, fidèle lecteur de Sayyid Qutb, est évidemment hostile à la plupart des pouvoirs arabes, qu'il juge illégitimes et non conformes à la loi divine. Mais, d'une certaine manière, en valorisant et en construisant le djihad en Afghanistan, il échappe à la problématique de la prise du pouvoir, qui est source de division entre musulmans, puisqu'au fond, l'assassinat de Sadat en octobre 81 n'a pas conduit à une prise du pouvoir, elle a conduit à une répression dans les rangs islamistes, à l'enfermement de Ayman al-Zawahiri, donc le chef du djihad islamique égyptien. En Syrie, il y a une première guerre civile qui a lieu de 78 à 82, et qui, là aussi, est d'abord une révolte de la société civile, puis un peu sur le modèle de ces dernières années, et en quelque sorte contaminée, rattrapée, réencadrée par des islamistes de plus en plus radicaux, et au fond, qui n'aboutit pas non plus à la prise du pouvoir. Et Azzam sait que ces causes sont des causes qui créent le dissensus, la division à l'intérieur du monde musulman, mais qu'en revanche, la problématique de la défense de la Oumma est une problématique beaucoup plus consensuelle. Mais il n'en pense pas moins. Et quand on lit, quand on dépouille la revue Al-Jihad, on voit qu'il est le seul régime qu'il dénonce, c'est le régime syrien, mais on sent la lâcheté des dirigeants musulmans est soulignée à plusieurs reprises. Tout ce qui compte, c'est le sang des volontaires, de la Oumma, etc. Évidemment, tout le contexte géopolitique, c'est-à-dire le fait que les armes soient américaines, le financement saoudien, l'expertise pakistanaise, toute cette dimension géopolitique qui va entraîner l'échec soviétique en Afghanistan fait l'objet d'un déni. On n'en parle absolument jamais. La revue contribue à recoder en termes religieux la réalité internationale et la réalité afghane, mais à travers ce recodage religieux, paradoxalement, elle décontextualise considérablement la réalité du conflit en Afghanistan. Voilà un peu le contexte dans lequel cette entreprise se noue. Il y a quelques Saoudiens qui vont dans le bureau des services, Maktab al-Khadamat, ce qui suscite l'inquiétude des Saoudiens, et donc progressivement la scène de Peshawar va en quelque sorte se densifier. Il va y avoir d'autres structures d'accueil, d'autres structures de volontaires. Alors vous en avez deux. L'une est créée justement par Oussama Ben Laden en 1988, entre l'Afghanistan et le Pakistan, c'est Al-Qaïda, la base. Probablement Al-Qaïda, donc la base du djihad. Et pourquoi Ben Laden, qui a d'abord financé le bureau des services d'Abdallah Azzam, pourquoi Ben Laden finit par créer sa propre structure? D'abord parce qu'il considère que l'argent est mal utilisé. Et il y a aussi une divergence stratégique avec Azzam. Azzam est favorable à la distribution de combattants et de l'aide, la diffusion, si vous voulez, au milieu au sein des 7 organisations de la résistance afghane. Azzam a des bonnes relations avec Massoud au nord, il a des relations plus tendues avec Hekmatyar, Pashtoun radical islamiste, mais il cherche à conserver des liens avec toutes les organisations de la résistance afghane et à envoyer les combattants arabes au sein de chacune de ces de ces organisations et avec de la distribution d'argent. Ben Laden a une autre stratégie. Il veut constituer une brigade arabe indépendante qui irait combattre contre les soviétiques, mais ne se fondrait dans aucune organisation afghane. Donc il y a déjà une divergence stratégique entre les deux. Et puis, Oussama Ben Laden reçoit l'aide intellectuelle de celui qui est le représentant du Croissant Rouge à Peshawar, qui est Ayman al-Zawahiri, l'actuel chef d'Al-Qaïda, qui est chirurgien, comme vous le savez, petit-fils par sa mère du secrétaire général de la Ligue arabe, du premier secrétaire général de la Ligue arabe. Et on a ici un fils de famille qui va en réalité influencer considérablement Ben Laden et qui va remplacer en quelque sorte Abdallah Azzam dans le statut du mentor. Vous avez une autre organisation qui va se créer aussi au nord-est de l'Afghanistan avec un financement saoudien de l'institution religieuse qui est le groupe Jamil al-Rahman, du nom d'un cher afghan. Le groupe de Jamil al-Rahman va proclamer un émirat dans la province de Kunar, K-U-N-A-R, à la fin des années 80. Et ce groupe se veut vraiment wahhabite. Il porte l'idéologie officielle du royaume saoudien, ce qui, entre parenthèses, est intéressant quand on utilise ce mot que moi je récuse de salafisme quiétiste. Ce salafisme dit quiétiste à un moment, dans une occurrence particulière, s'est politisé, s'est militarisé, puisqu'ils ont financé un groupe armé contre l'Union soviétique à la fin des années 80. On devrait davantage utiliser le qualificatif de salafisme piétiste, mais qui peut, dans certains cas, passer et légitimer l'action militaire. L'idée est de dégager les jeunes saoudiens de l'influence de Azzam et de les placer dans celle de Jamil al-Rahman. Parce que, au fond, dans la vision du monde des Saouds, le politique relève de la famille saoudienne, de la famille royale, et la foi, la pureté de la doctrine relève de l'institution religieuse. Il y a une division des rôles. Et chez Azzam, qui est un ancien frère musulman, c'est tout le contraire d'une certaine manière. C'est-à-dire que les États-Unis sont un ennemi. Ils soutiennent Israël, ils soutiennent les dictatures arabes. Il n'écrit pas qu'il faut les combattre, mais en tous les cas, les États-Unis sont un ennemi. Après l'Union soviétique, il y a les États-Unis, et c'est déjà écrit dans la revue. De plus, si vous lisez encore une fois la revue Al-Jihad, vous avez un Abdallah Azzam qui a exactement la même fonction que Che Guevara, c'est-à-dire qu'il veut reproduire des jihads. Après l'Afghanistan, il pense au Yémen du Sud, à l'époque qui est marxiste, il pense aussi à l'Asie centrale, au Tadjikistan, aux anciennes républiques musulmanes d'Union soviétique, il pense aussi aux Philippines, il pense au Liban. Il a dans sa carte également l'Andalousie, donc c'est presque rétablir l'empire abbasside. C'est une vision où la Oumma prend une dimension territoriale, aussi par anachronisme, et au fond, on a un Azzam qui veut rétablir les frontières abbassides, quasiment, en voyant cette Oumma sous sa forme territorialisée. Mais en tous les cas, on a un personnage extrêmement politisé. Et le pouvoir saoudien redoute une influence trop forte de Azzam et de ses idées subversives sur la jeunesse saoudienne. Et par ailleurs, le groupe de Jamil al-Rahman, qui porte cette pureté wahhabite, accuse les autres de ne pas bien connaître la doctrine, de faire trop de concessions à des groupes soufis, afghans, et au fond de ne pas bien connaître l'islam. Et donc c'est un milieu où s'opère l'hybridation progressive dans ce milieu de Peshawar qui est le lieu de naissance et de constitution d'un champ djihadiste. Vous avez également un autre acteur qui va arriver très tardivement à Peshawar lui aussi, qui s'appelle Abu Mohammed al-Maqdisi, de son vrai nom Issam al-Berkawi. Abu Mohammed al-Maqdisi, c'est une des stars du djihadisme international. Les frères Mera, Abdelkader comme son frère Mohammed, avaient toute la collection d'Abu Mohammed al-Maqdisi. Et Abou Mohammed al-Maqdisi s'installe, je vais vous dire un mot sur son itinéraire, mais il s'installe lui aussi à Peshawar, qui devient réellement un lieu de légitimation, ou ce que Bernard de Barbieux appellerait un espace instituant, c'est-à-dire que ça devient un espace qui est une composante indispensable de l'identité en train de se créer. Il faut être passé par Peshawar pour prétendre avoir une légitimité djihadiste, même si on n'a pas combattu. C'est vraiment le ribat, c'est le lieu de protection de la frontière de la Oumma dans un climat de mobilisation et de guerre. Et Abou Mohammed al-Maqdisi écrit un livre qui s'appelle « Les preuves explicites de l'impiété de l'État saoudien ». Je fais jalia, les kufr al-dawla saoudia. Alors lui, il écrit que les Saouds sont des mécréants. Et ils sont des mécréants pourquoi ? Parce que le niveau d'argumentation est assez incroyable, parce qu'ils acceptent des ambassades étrangères sur le sol saoudien. On ne peut pas accepter des drapeaux autres que ceux de la Shahada sur le sol saoudien. Et surtout, ils introduisent du droit positif, du latin positum, du droit de fabrication humaine, du droit qui est posé dans des codes. Alors les Saoudiens nous expliquent, Abou Mohammed al-Maqdisi, sont malins. Ils ne vont pas parler de loi, ils ne vont pas parler de normes. Ils vont appeler ça des régimes, des andima. Ils vont appeler ça des awamir, des ordres. Ils vont appeler ça des instructions. Mais en réalité, nous dit Abou Mohammed al-Maqdisi, ils introduisent du droit occidental dans le code de la fonction publique, dans le droit commercial, ce qui est vrai. Des prescriptions qui n'ont aucune origine divine. Et donc le royaume d'Arabie saoudite consacre des lois positives, des lois humaines, et trahit, dit-il, l'enseignement de celui dont il se réclame, Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et toute la démonstration consiste à retourner en réalité contre le pouvoir saoudien une partie de sa légitimation intellectuelle. Et de dire en gros que l'institution religieuse, qui est normalement la gardienne de cet enseignement, le trahit. Et d'utiliser cet enseignement et de le retourner contre à la fois le pouvoir des Saouds et contre l'institution saoudienne. Il écrit un autre livre, exactement à la même période. Alors ces livres, il n'y a pas de réseaux sociaux, ces livres sont renéotypés et ensuite distribués à Peshawar. Ils soulèvent une très forte, des débats extrêmement forts. Il faut rappeler également qu'Abou Mohammed al-Maqdisi est membre du réseau qui a pris d'assaut, si vous en souvenez, la grande mosquée de la Mecque en novembre 1979. Si bien qu'on a ici un groupe avec des visions eschatologiques, qui attendait l'arrivée du Mahdi, le groupe de Juhayman al-Utaibi, est un groupe lui-même qui se réclamait de ce wahhabisme primitif et qui considérait que les Saouds avaient trahi. Exactement comme il recommence, si vous voulez, la séquence historique des luttes entre ce qu'on appelait les Ikhwan, c'est-à-dire les troupes wahhabisées d'Abdelaziz, contre Abdelaziz en 1927 jusqu'à 1930, consistant à dire tu es en train de fonder un État moderne et tu trahis le devoir d'universalisation et d'expansion de l'islam. Et c'est intéressant de voir que Abou Mohammed al-Maqdisi, qui est un Palestinien lui aussi, mais installé au Koweït, a été soumis à l'influence de ce groupe depuis le Koweït et donc va poursuivre, j'allais dire, son œuvre intellectuelle à Peshawar. Et qui va le rejoindre à Peshawar, ça c'est quand même tout à fait étonnant, c'est pour ça que je vous dis que comprendre ce champ djihadiste en formation à la fin des années 80 va permettre de comprendre la situation actuelle. Il est rejoint par un certain Zarqawi, Abou Moussab Zarqawi, qui est le fondateur de l'État islamique. Zarqawi, si vous vous en souvenez, je vais vous raconter encore ce tandem entre Abou Mohammed al-Maqdisi et Zarqawi. Zarqawi a 17 ans à peu près, 17-18 ans. Il est aussi à Peshawar, il va quitter la Jordanie et se rendre à Peshawar, et il va subir l'influence directe de Abou Mohammed al-Maqdisi. Et au fond, on a déjà les deux grandes sensibilités à l'intérieur du djihadisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire la sensibilité, on va dire, frères musulmans radicalisés à travers Azam et aussi Ben Laden, et puis une autre tendance djihadiste qui, elle, s'appuie sur le corpus wahhabite et qui donnera ultérieurement l'État islamique. Et avec, quand on prend un peu le recul, ce moment fondamental qui est l'année 79, l'invasion de l'Afghanistan pour l'Union soviétique, la prise de la grande mosquée de la Mecque, on peut rajouter évidemment la révolution islamique en Iran, et donc la question du rapport au chiisme va devenir aussi très importante à l'intérieur de ce monde djihadiste en voie de formation, et j'oserais dire encore, si je pousse encore un peu plus loin, la signature des accords de Camp David et la solution négociée pour le possible ou l'actuellement très difficilement imaginable État palestinien, en allant très vite. Hein. Voilà à peu près la scène, si vous voulez. Le duo joué par Zarqawi et Abu Mohammed al-Maqdisi, ils vont quitter ensemble 93 Peshawar, revenir en Jordanie. En Jordanie, ils sont rapidement arrêtés par les autorités jordaniennes. Ils subissent un séjour en prison jusqu'à l'année 99. 99, ils sont graciés parce que le nouveau roi de Jordanie, Abdallah II, est nommé, donc devient roi après la mort de son père. Et Zarqawi s'est émancipé de la tutelle intellectuelle de Abu Mohammed al-Maqdisi et va s'installer en Afghanistan sous les talibans à partir de l'année 99 dans la ville d'Herat en Afghanistan, et il va constituer son entreprise djihadiste de manière parfaitement autonome. Il mutualise des camps d'entraînement avec Ben Laden, mais il ne fait pas allégeance à Ben Laden. Il est porteur d'une autre sensibilité djihadiste. Et à cette époque, il est soumis à l'influence d'un cher égyptien qui est présent à Herat, qui écrit un livre qui s'appelle « La jurisprudence du sang », dans lequel ce cher égyptien explique qu'il faut passer égorger tous les chiites. S'ils ne font pas repentance, s'ils ne reviennent pas au véritable islam, il faut les tuer. Voyez, alors que l'autre tendance, je veux dire la tendance Ben Laden, qui est aussi en Afghanistan à cette époque, ne veut pas du tout rentrer dans la querelle sunnite-chiite. Ben Laden n'aime pas à titre individuel les chiites, mais l'idée, c'est de ne pas diviser le monde musulman, mais au contraire de lutter contre les États-Unis. Et ce clivage qui constituait à Peshawar potentiellement va s'exprimer de manière manifeste, si vous voulez, déjà en Algérie. On a aussi oublié dans notre mémoire algérienne récente que le Front islamique du Salut était déjà largement un parti salafiste, et même avec une très forte imprégnation de salafistes djihadistes, qui vont tactiquement passer aux politiques au moment de la libéralisation du régime après 1988, et qui vont ensuite, d'où va sortir, après l'interruption du processus électoral en 1992, d'où sortira le GIA, le groupe islamique armé. Groupe islamique armé, ce ne sont pas des groupes, dans cette seconde guerre d'Algérie, qui vont surgir après, à côté, ou en dehors du Front islamique du Salut. Ils vont se constituer depuis le Front islamique du Salut. C'est tous les groupes qui étaient plutôt hostiles à la tactique électorale qui vont reprendre le dessus. Donc il y a eu plusieurs dirigeants du groupe islamique armé, et celui qui sera, qui correspondra à cette sensibilité, celle d'Abu Mohammed al-Maqdisi, celle de Zarqawi, c'est Jamel Zitouni, qui devient chef du groupe islamique armé en fin 94-95, si je ne dis pas de bêtises, et qui va commencer à massacrer des villages qui ne paient pas l'impôt. Va obtenir depuis Londres, de la part de Cher, qui sont passés par Peshawar eux aussi, depuis Londres dans la revue Al-Ansar, des fatwas autorisant l'égorgement des femmes mécréantes, ou des femmes plus exactement apostats, c'est-à-dire en gros tous ceux qui n'ont pas rejoint le groupe islamique armé sous la direction de Jamel Zitouni, sont considérés comme des cibles à abattre légitimement. Et donc il obtient des fatwas où on explique que assassiner des femmes de journalistes, assassiner des femmes de membres du FLN, c'est autorisé, c'est licite, puisqu'ils n'ont pas fait repentance et qu'ils n'ont pas rejoint le groupe islamique armé. Cette stratégie épouvante complètement l'autre sensibilité djihadiste incarnée par Zawahiri et Ben Laden, et Zawahiri va se reprendre un terme célèbre, il va se désavouer des actions de Jamel Zitouni. Et c'est exactement à cette période, on est dans la seconde partie des années 90, c'est probablement vers 98-99 que Ayman al-Zawahiri va écrire « Cavalier sous la bannière du prophète »,« Forsan taht raid al-Nabi », qui est l'idéologie du 11 septembre. C'est l'idée qu'il ne faut plus rentrer dans les conflits internes, pas chercher à prendre le pouvoir, que l'expérience algérienne des années 90 est traumatisante, que la seule manière de réunifier les masses musulmanes, c'est de lutter contre les États-Unis. Et c'est à cette période, après ce second drame algérien, que vous avez les attentats à Nairobi et en Tanzanie, vous avez l'attentat contre l'USS Cole dans le golfe d'Aden en 1998, puis le 11 septembre 2001, l'attentat à New York. Mais en réalité, ce texte est écrit bien avant, et ce texte va être publié dans la presse arabe en 2001, après les attentats, ou en 2002, mais ce texte est écrit bien avant. Et avec le début des années 2000, on va assister au fond à la victoire de Zarqawi sur Ben Laden. En termes journalistiques, et si on aime le goût des formules, on peut dire que c'est vraiment la victoire du marginal sur le fils de famille qui était Oussama Ben Laden, c'est la victoire de l'homme du Cham, Jordanie-Palestine, sur l'homme de la péninsule arabe, c'est la victoire du confessionnaliste qui lui veut insister sur le clivage entre sunnites et chiites, sur le consensualiste qui était Ben Laden de son point de vue, puisqu'il ne veut pas du tout, au contraire, il ne veut pas réactiver ce clivage, mais au contraire unifier le monde musulman contre l'Occident. C'est la victoire de l'exhibitionniste contre le stratège, puisque c'est Zarqawi le premier qui va filmer les exécutions d'otages, tenir parfois, dit-on, le poignard et mettre en scène l'horreur visuelle pour diffuser et impressionner et créer la sidération à l'extérieur. Et pour finir ce jeu des formules, c'est la victoire du sociologue ou de l'anthropologue instinctif qui était Zarqawi sur le professeur des relations internationales qui est Ben Laden, puisqu'au fond, Zarqawi comprend qu'il faut, rentrer dans le tissu arabe, jouer sur ses contradictions, exploiter les espaces de crise, et il va le faire instinctivement. Après la chute des talibans en octobre 2001, il se rend au Kurdistan irakien, il comprend que les États-Unis vont frapper l'Irak et conduire une opération de renversement de Saddam Hussein, et il va s'ancrer dans ce tissu sociologique irakien. Avec aussi une idée, c'est de s'emparer de villages, de s'emparer de villes. Alors, il meurt, vous savez que ce qui sera aujourd'hui l'État islamique a plusieurs dénominations, a plusieurs appellations. Quand Zarqawi rentre en Irak en 2002, ça s'appelle, son petit groupe s'appelle Tawhid wal Jihad, unicité si vous voulez, et Jihad. Ensuite, ça va s'appeler Al-Qaïda dans le pays des deux fleuves. Alors c'est le moment, au fond, où Ben Laden est obligé de le reconnaître, mais ça n'empêchera toujours pas les divergences de fond. Il y a des lettres de Zawahiri et de Ben Laden demandant à Zarqawi d'arrêter de mettre des bombes dans les mausolées chiites, de ne plus égorger et de ne plus répandre de vidéos d'égorgement. Il n'écoute pas. Donc on a une reconnaissance nominale. Ensuite, Zarqawi est tué par une bombe américaine. Le groupe s'appellera l'État islamique en Irak, sous l'influence des éléments djihadistes irakiens qui veulent que la mention de l'Irak soit explicite. Et à ce propos, il faut noter une chose, dans la compréhension instinctive de Zarqawi, Zarqawi comprend deux choses. Il, avant sa mort, il lance des déclarations, des cassettes, des enregistrements, disant que l'Irak allait devenir chiite, que les élites sunnites allaient tout perdre, qu'il ne fallait pas se rallier au processus politique, que les médecins, les anciens cadres du Baas allaient de toute façon être marginalisés, ce qui arrivera. Donc, d'une certaine manière, sa prophétie devient autoréalisatrice et lui-même l'accélère en plaçant la violence en milieu chiite. Donc il attend évidemment cette marginalisation pour récupérer la colère sunnite irakienne. Et d'autre part, il récupère des éléments bassistes de manière très militairement intelligente lors des deux guerres de Fallujah, en avril 2004 et en novembre 2004. Il prend des mercenaires de Blackwater, des mercenaires qui travaillent pour l'armée américaine, les égorge, les pend, etc. Les États-Unis, l'armée est horrifiée, bombarde violemment la ville de Fallujah, et comme c'est un des lieux classiques de recrutement d'éléments de sécurité du régime de Saddam Hussein, il sait parfaitement qu'il va recruter des victimes ou des gens qui ont eu des familles qui ont été atteintes par les bombardements dans son propre réseau. Et il recrute notamment, donc ça n'est pas du tout, comme on l'a dit un peu facilement dans la presse, une construction des services de Saddam Hussein. C'est Zarqawi qui récupère des éléments de ces services, des éléments jeunes et des éléments déjà largement imprégnés de religieux, puisque l'Irak de la fin des années 90 s'engage aussi dans une politique de construction de mosquées, enseignement du Coran obligatoire pour les jeunes officiers du BAS, ou en tous les cas, ils doivent retenir des parties du Coran. Les femmes sont voilées à la télévision, les manuels scolaires sont réécrits, l'Occident est considéré comme un ennemi par essence. On est déjà dans un Irak qui se transforme, si vous voulez, sociologiquement et idéologiquement. Et c'est cette jeune génération d'officiers, déjà soumis à une pression religieuse, qui ne se sont pas battus contre l'Iran, qui vont rentrer par conviction et par colère dans le groupe de Zarqawi. Voilà à peu près, si vous voulez, le cadre dans lequel va naître donc État islamique en Irak en 2006, qui va devenir en 2013 État islamique en Irak et en Syrie, avec l'intervention d'éléments djihadistes en Syrie, puis en 2014 État islamique. Mais cet État islamique, encore une fois, est le résultat d'une longue dynamique idéologique qui s'est constituée, ce que j'ai essayé de montrer, depuis Peshawar, et qui s'est développée lors du GIA afghan au milieu des années 90, puis à la faveur de la Troisième Guerre du Golfe à partir du début des années 2000. L'affrontement entre aujourd'hui Al-Qaïda en Syrie et l'État islamique est donc un affrontement ancien qui était potentiellement présent à Peshawar. J'ajoute une chose également de contexte qui est très importante, c'est que qu'on n'a aussi pas forcément très bien compris, c'est le rôle, ce réseau de Zarqawi a pu continuer d'exister pendant toute la décennie 2000, largement grâce à l'appui du régime de Bachar el-Assad et de ses services de renseignement. Ce sont des hommes qui ont toujours franchi la frontière quand la pression américaine était trop forte. Et au moment où le général Petraeus, qui a aussi un diplôme d'anthropologie à Princeton, a mis en place ce qu'on a appelé les milices tribales des Sahrawis, pour lutter en milieu tribal contre les groupes djihadistes, ces groupes djihadistes ont passé la frontière. Ils étaient connus des services de renseignement syriens. Ils leur parlaient. L'idée était quoi ? L'idée était de dire, tant que vous continuez à lutter contre l'effort américain et que vous empêchez l'établissement d'un État démocratique en Irak, vous remplissez nos objectifs stratégiques. Si vous avez d'autres objectifs, comme de frapper l'Europe, là, puisqu'on a besoin du lien avec l'Europe, on avertira les Européens. Et ça consiste aussi à dire aux Européens, si vous lâchez votre soutien, nous ne garantissons plus non plus la livraison d'informations sur ceux qui viennent de France dans nos instituts religieux, l'Institut Al-Nour, par exemple, Aboul-Nour, à Damas. Donc il y a un jeu tout à fait subtil, si vous voulez, mais ces liens sont connus. Ce qui explique, Henri Laurence y faisait allusion tout à l'heure, qu'au moment où la pression américaine est très forte sur Bachar el-Assad, lui demandant de contrôler la frontière entre la Syrie et l'Irak, les Syriens qui ont été humiliés au Liban après leur retrait d'avril 2006 vont envoyer ou faciliter un fragment de l'organisation de Zarqawi au Liban, qui va prendre le camp palestinien de Nahal Bared à partir de 2006, de la fin de l'année 2006 et de début de l'année 2007, et c'est déjà un fragment du groupe de Zarqawi, du futur État islamique, qui s'installe au Nord-Liban. Et qui s'installe au Nord-Liban au moment où il y a une mobilisation sunnite anti-Assad. On voit très bien la stratégie ici, qui est celle d'inoculer, en quelque sorte, le virus djihadiste dans les rangs sunnites pour les détruire de l'intérieur. Une vieille tactique soviétique que les Français ont également apprise après la guerre d'Indochine, sous la forme de la bleuite. On met les éléments les plus radicaux dans le camp ennemi pour que celui-ci s'autodétruise, là où ce qu'on a appelé aussi la discorde chez l'ennemi. Et c'est une stratégie qui va réussir également après 2011 dans le cadre du conflit syrien. Ce n'est pas de l'explication exclusivement policière, puisqu'il est évident également que cette stratégie s'appuie sur des logiques sociologiques, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une faiblesse idéologique en milieu sunnite, que les gens ne sont prêts à mourir pour la plupart, surtout pour l'islamisme, et que le groupe qui s'appelait le groupe Fatah al-Islam au Liban du Nord produisait un effet de fascination sur, non seulement sur une partie des jeunes du Nord-Liban, de la ville de Tripoli, mais commençait aussi à attirer des jeunes Européens, des jeunes Australiens, des gens venus de Tchétchénie, et qui arrivaient dans ce camp palestinien. On avait aussi des logiques qui vont ensuite s'affirmer sur une échelle beaucoup plus grande dans l'expérience de l'État islamique. Quand j'ai parlé au tout début aussi de ce djihadisme en milieu sunnite, je crois qu'il faut aussi le voir toujours dans une compétition avec l'autre djihad, qui est le djihad iranien. Et ce djihad iranien, c'est un djihad qui, lui, s'appuie sur un appareil d'État. Et c'est un djihad qui structure. C'est-à-dire que j'utilise cette formule un peu facile, mais elle permet de simplifier une réalité compliquée. C'est-à-dire qu'au fond, l'islamisme, quand il est diffusé en milieu chiite, a un effet structurant. Il construit des communautés parce qu'il y a un clergé qui prenne le pouvoir. Ce sera le cas au Liban, dans la communauté chiite, avec d'abord le groupe des hérités de Moussa Sadr et puis ensuite le Hezbollah. Ça sera aussi le cas en Irak, où les différentes organisations religieuses vont restructurer la communauté chiite en marginalisant les chiites communistes, parce qu'il y a, j'allais dire, une organisation étatique et qui veille, là aussi, depuis, pour rappeler le propos introductif, au fond, à laisser le sunnisme face à l'islamisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des personnalités politiques institutionnelles. L'assassinat de Hariri, c'était déjà une stratégie consistant à supprimer des personnalités charismatiques politiques sunnites pour laisser au fond, comme seul choix aux sunnites, l'islamisme. Et cet islamisme est nécessairement autodestructeur, puisque cet islamisme ne donne pas de légitimité aux élites civiles. À partir du moment où elles ne dirigent pas selon la loi de Dieu, elles sont illégitimes. Et donc l'islamisme en milieu sunnite, d'une certaine façon, est une machine à produire de la division, puisqu'elle récuse par avance des stratégies électorales, politiques, des notables sunnites. Même chose en Irak. Vous voyez, donc quand une figure émerge, elle est éliminée. C'était aussi le cas, le Hezbollah a aussi assassiné Wissam el-Hassan, qui est le chef de la police libanaise, en 2008, etc. Donc il y a vraiment une politique, très, d'après moi, très consciente d'élimination des figures indépendantes en milieu sunnite. Cet islamisme en milieu sunnite a des effets déstructurants, cet islamisme en milieu chiite, a des effets structurants. Et on a l'autre grande opération réussie, c'est celle sur la question palestinienne. À travers le Hezbollah, qui s'empare du contrôle du front, j'allais dire, de l'accès à la Palestine du Nord, à travers le sud Liban, qui en évince toutes les autres organisations et qui n'aime pas les Palestiniens, mais aime la cause palestinienne. Vous avez aussi des stratégies iraniennes au sein du Hamas, l'idée étant de contrôler cette cause palestinienne et de projeter sa puissance en Méditerranée orientale, en Irak, en Syrie. Et au fond, on a un djihad qui devient une source de désordre contre un djihad institutionnel, encadré, avec à sa tête le général Qassem al-Soleimani, et qui a des groupes, des milices chiites en Irak qui suivent des ordres et qui sont contrôlés, qui commettent également des exactions aussi probablement aussi atroces que celles de l'État islamique, mais qui ont au moins l'intelligence de ne pas les filmer. Voilà, pour être très, très synthétique, si vous voulez, ce cadre géopolitique qui naît à peu près en 79, qui va développer des propres logiques depuis Peshawar, et qui va être aujourd'hui source de désordre international, et avec l'expérience de l'État islamique, de terrorisme sur le continent européen. Voilà à peu près si pour le...
Merci Bernard. Tu as beau venir de la science politique, tu as fait un travail magnifique d'historien, puisque les historiens sont là pour prédire le passé. Et donc, ça, c'est absolument magistral de ce point de vue-là. Prédire le passé, c'est pas simplement une blague. C'est-à-dire, quand quelque chose se produit, ce que font les historiens, c'est d'essayer de retrouver les antécédents et les chaînes causales qui ont précédé et qui n'avaient pas de sens au moment où les choses se produisaient, mais qui ont pris sens par les événements qui leur ont succédé. C'est donc cet exercice essentiel de la prédiction du passé qui est le travail des historiens. Alors, le djihad, évidemment, vous avez là, j'ai encore eu récemment une proposition d'un éditeur qui voulait que j'écrive un livre sur islam et violence, et je réponds que ce n'est pas pertinent en soi. Dans l'islam classique, le djihad, c'est tout simplement la théorie de la guerre juste, exactement comme dans le christianisme, à partir de saint Augustin, vous avez une théorie de la guerre juste, et vous avez donc un corps juridique dans l'islam, comme il existe dans la pensée chrétienne et post-chrétienne, c'est-à-dire dans la continuité positive, enfin, du droit naturel, mais qui s'inspire des racines chrétiennes sur le droit de la guerre. Le djihad, c'est le droit de la guerre, comme il y a un droit de la guerre dans la pensée chrétienne. Et donc, ce que fait l'islamisme au XXe siècle, tu en as fait la démonstration à l'instant, c'est de privatiser ce qui était normalement un fait institutionnel, avec des mécanismes. Je n'ai jamais compris pourquoi les Américains étaient contre le terrorisme, puisque le terrorisme, c'est avant tout une privatisation de la violence. Mais ça, c'est un autre sujet. De ce point de vue-là, en effet, il y a différentes dates qui permettent de voir ces basculements dans la privatisation. Alors, on disait déjà avec Hassan el-Banna, au sens où ne sortait pas, enfin, donc fondateur des Frères musulmans, ne sortait pas du schème normal, institutionnel. C'était quelqu'un qui n'était pas un religieux de formation qui a fondé les Frères musulmans. Mais on pourrait revenir aussi sur le 19e siècle, quand apparaît cette catégorie de l'intellectuel musulman distinct du clerc en tant que tel. Donc ça, c'est un sujet essentiel. L'autre moment, évidemment, c'est nous sommes tous de plus en plus conscients, en tant que prédicteurs du passé, que 1979... a été un tournant essentiel. Bien évidemment, sur le moment, on l'a encaissé avec la chaîne de... Moi, j'étais à l'âge adulte largement à ce moment-là, donc j'ai bien vu ce qui se passait, surtout que je traînais mes guêtres au Proche-Orient en 1979. Mais de cela à la compréhension de ce que ça allait donner. C'était autrement, donc 79, je rappelle, c'est la révolution iranienne, c'est le début de la guerre d'Afghanistan, c'est la prise d'otages de la Mecque. Enfin bon, tous ces événements se retrouvent dans ces quelques mois. J'insisterai peut-être plus que toi dans le fait qu'il me semble que le djihad tel qu'il est construit, enfin sur la séquence djihad internationale, l'expression que j'ai empruntée à Myriam Abou Zahab, qui était une chercheuse admirable, qui est récemment décédée. Et donc, elle m'avait fait une magnifique conférence il y a, dans les années 90, justement, enfin, c'était avant le 11 septembre, sur le djihad international. Et donc, il prouve que déjà à l'époque, le terme était tout à fait courant. Mais ce djihad international, c'est une réponse sunnite globale à la révolution iranienne de 1979. Ceci, il faut insister parce que certaines écoles d'interprétation voient toujours dans la question du djihad international une réaction à l'Occident, à l'impérialisme, etc. Il y a cette dimension, évidemment, mais il y a aussi toute une dimension interne pour le contrôle du monde musulman. Qui ne prend pas en compte les acteurs, sauf évidemment si vous avez suivi le cours de cette année et les autres sur lesquels j'insiste, que de toute façon tout ce qui est politique entre la Méditerranée et l'Indus est en quelque part enchâssé dans un jeu de relations internationales au niveau global, et que évidemment chaque acteur réagit en fonction d'une carte géopolitique, de jeu d'alliance, de contre-alliance, etc. Et le GIEN n'en fait pas exception, même s'il apparaît comme réactionnel par rapport à ces éléments. Mais ce qui était décrit pour l'Algérie était magnifiquement exprimé dans ce qu'on appelle les confessions de Khaled Khalkhal, qui est un texte qu'on trouverait absolument parfaitement dans l'État islamique d'aujourd'hui. Tout est déjà dit. Dans quel cas c'était ce terroriste d'origine française qui a été tué par la police, mais il y avait un sociologue allemand qui l'avait interrogé quelques mois avant. Et donc c'est un document absolument exceptionnel parce qu'on voit que tout ce qui se dit aujourd'hui se disait déjà il y a plus de 20 ans dans la région lyonnaise. Ce qui me pose d'ailleurs une autre question, parce que parmi les antécédents du djihad, on ne parle jamais d'un groupe qui est le Hizb ut-Tahrir, le Parti de la Libération, parce qu'il est pacifique. Enfin, je ne lui connais aucun acte de violence qui lui soit attribué. C'est une autre scission jordanienne des années 50 des frères musulmans, le Hizb ut-Tahrir, mais qui pratiquement donne toute l'idéologie de l'État islamique 50 ans avant. Alors, si on faisait une vision purement textuelle, ce qu'évidemment il ne faut pas faire, puisqu'il y a du social, du politique, etc., on pourrait dire qu'on est au confluent entre Sayed Kopp et le Hizb ut-Tahrir, c'est-à-dire le djihad plus l'idéologie du Parti de la Libération conduirait à l'État islamique quelque part. Qu'est-ce que tu en penses, Bernard?
Pardon, pour le Hizb ut-Tahrir, c'est vrai qu'ils ont construit une idéologie califale. Ils sont, c'est le cheikh al-Nabahani, hein, qui était un cheikh jordano-palestinien en 59, qui est à peu près la date de création, si je ne dis pas de bêtises, du Hizb ut-Tahrir, le parti de la libération islamique, qui a le projet du califat, mais qui récuse l'usage de la violence et qui a pu jouer un rôle de socialisation ou de sas auprès de certains militants. Paradoxalement, il était aussi présent à titre de sensibilité sur la scène algérienne au début des années 90. Est-ce qu'il a joué un rôle dans la socialisation de certains jeunes? C'est possible, je n'ai pas d'exemple précis. Mais ce que je peux rajouter dans le cas de la filiation entre l'Afghanistan et l'Algérie, c'est que la sensibilité que j'ai appelée celle de Zarqawi, développée par Abou Mohamed al-Maqdisi, elle s'est retrouvée chez quelqu'un qui est passé également à Peshawar, qu'on appelait au début des années 90 le docteur Ahmed Abou Amra, qui est l'un des inspirateurs de Jamel Zetouni et du GIA ultra-violent de la seconde partie des années 90. Donc c'est tout à fait frappant de voir cette filiation idéologique et cette projection des contradictions de Peshawar dans ce milieu afgo-pakistanais, ensuite vers l'Algérie, puis en retournant vers l'Irak et aujourd'hui en France. Sur une chose aussi que la remarque de Henri me permet de préciser, c'est que non seulement al-Maqdisi réactive contre les Saouds l'enseignement de Mohammed ibn Abdel Wahhab, mais il promeut ce syntagme très particulier qui est al-wala ou al-bara, l'allégeance et la rupture. Allégeance et rupture, aujourd'hui, si vous allez auprès des jeunes un peu réislamisés de nos banlieues, même s'ils ne sont pas bons arabisants, ils connaissent al-wala ou al-bara. Ils connaissent l'allégeance et la rupture. Et quelle était l'idée ? Alors, c'est un syntagme qui est né dans le contexte saoud ou saoudite, puisque l'idée, c'est une expression qui a été inventée à partir d'une lecture de certains versets du Coran par le petit-fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab, Sulayman ben Abdallah, pour dire au prince Saoud, tenté par l'alliance avec les Ottomans contre d'autres Saouds, qu'il ne fallait pas s'allier avec des mauvais musulmans ou des non-musulmans. C'était le contexte. Ce syntagme a été réinterprété par Abou Mohammed al-Maqdisi avec l'idée qu'il ne faut pas s'allier avec des juifs et des chrétiens et qu'il faut se désavouer des lois d'origine humaine et des influences étrangères. Et donc vous avez tout à coup une vision du monde où l'allégeance doit s'appuyer sur ceux qui sont dans votre camp et la rupture et toute forme de rupture doivent être assumées avec les ennemis. Et la rupture, c'est aussi la rupture avec la société mécréante, la rupture avec les influences, la rupture avec la politique, la rupture avec la culture et la mise en place ou l'affirmation d'un entre-soi. Et ça, c'est une idée qui a été mise en avant depuis Peshawar dans un livre qui s'appelait « La communauté d'Ibrahim »,« Millat Ibrahim », par le même Abou Mohammed al-Maqdisi, qui est probablement celui, avec quelques autres, mais celui dont les termes ont le plus essaimé dans les milieux djihadistes, presque à l'échelle mondiale, si j'ose dire. Cette notion de rupture et d'allégeance est centrale dans l'idéologie djihadiste. Et elle est parfaitement intériorisée aujourd'hui par les enquêtes qui sont conduites en prison ou dans certains quartiers, montrent que cette vision binaire du monde, légitimée par ce syntagme, circule. Tout le monde connaît dans la vision, dans la théologie primitive, en quelque sorte, diffusée par le djihadisme idéologique, ce syntagme, cette opposition. Donc, c'est quelque chose qui est central dans l'idéologie, la vision de soi et la vision de l'autre. Et ça peut se traduire aussi par le choix des sociabilités, ne pas avoir des amis qui ne sont pas comme vous, aussi des stratégies territoriales consistant à ne pas se mélanger, refuser la mixité, non seulement la mixité des genres, mais surtout la mixité intellectuelle, sociale, idéologique. Plus on est dans un espace fermé, mieux la foi dans sa définition djihadiste, entre guillemets, est défendue. L'autre chose, peut-être, que je n'ai pas précisé, sur laquelle je voulais insister, c'est la différence, mais ça, l'éclairage d'Henri sera important, évidemment, la différence dans le mot salafisme, et comment ce mot est passé d'équivalent du réformisme musulman à la fin du 19e à l'équivalent d'islamisme radical ou de salafisme djihadiste, etc. Comment on est passé de l'un à l'autre? Et à mon sens, il est important d'avoir, comme élément de distinction, l'idée qu'au fond, que la salafia, c'est-à-dire la réforme musulmane de la fin du 19e, s'appuyait sur les premiers musulmans pour retrouver l'esprit, en quelque sorte. L'idée, c'était de dire, ils ont su s'adapter, innover, imitons-les dans l'esprit, c'est-à-dire acceptons les sciences occidentales, le rapport avec l'Europe, la fécondité de ces rapports, pour mettre l'islam aux normes de la modernité. Ça, si j'ose dire, de façon très, très ramassée, très résumée, c'est la philosophie de ce réformisme musulman qu'on appelle parfois la salafia, mais c'est s'appuyer sur l'esprit pour s'adapter à la modernité. Le salafisme d'aujourd'hui, c'est s'appuyer à la lettre, c'est-à-dire essayer de ressembler littéralement à ce qu'on croit être ces premières communautés pour ne pas en respecter l'esprit, au fond. Ça serait, si vous voulez, encore une fois, une formule pour ramasser cette opposition. Et comment est-on passé de l'un à l'autre ? L'homme qui fait passer, qui récupère en quelque sorte le prestige de la salafia réformiste intellectuelle de la fin du 19e pour la passer dans le salafisme conservateur et littéraliste, c'est Rachid Rida. C'est vraiment lui, élève de Mohamed Abdou, récupéré par Abdelaziz, qui va, au fond, déprovincialiser le wahhabisme. Le wahhabisme, à l'époque, on l'appelait la prédication du Najd. Et au fond, elle va échapper à ce qualificatif méprisant et qui en accuse la dimension géographique et restreinte pour devenir l'équivalent de salafisme. Et c'est Rachid Rida qui va tout à coup apporter ce référent. Abdelaziz comprend très bien l'importance de cette prise, en quelque sorte, et à la fin, dans la revue Al-Manar, Rachid Rida défendra très clairement Abdelaziz, dans lequel il voit un défenseur de l'arabisme, et va, en quelque sorte, le wahhabisme, la prédication du Nejd, va se transformer en salafisme, et récupérer le prestige de ce référent, mais simplement en modifier largement le contenu.
Donc, tu as un excellent livre en anglais sur les origines du salafisme, j'ai plus le titre en tête, qui dit que cette histoire de salafia pour le 19e siècle, c'est une invention de Louis Massignon. Parce que les acteurs ne l'utilisaient pas. Et il en prend comme preuve, et je crois que c'est une très bonne preuve, c'est qu'Albert Ourani n'utilise jamais le mot salafia dans la pensée arabe à l'époque libérale. Le mot n'apparaît nulle part chez Ourani. Et c'est Massignon qui a donné l'usage. Et c'est vrai que Massignon était très proche de Rachid Rida. Et ils se sont rencontrés au Caire vers 1913, quand Louis Massignon enseignait à l'Université du Caire, qui était à l'époque une institution privée. Et c'est Massignon qui a imposé, en quelque sorte, ce terme salafia sur les réformistes du 19e siècle. Même si ensuite on peut considérer qu'il y a des courants salafistes à côté. Mais c'est vrai qu'au 19e siècle, au moins chez les Occidentaux, on appelle ces courants-là wahhabites, même s'il n'y a rien de wahhabite chez eux.
Et l'une des figures de ce réformisme musulman qui était Mohamed Abdou n'accordait aucune importance au hadith, au dit et au récit prophétique. Il ne voyait que le Coran, alors que le salafisme d'aujourd'hui s'appuie presque exclusivement, ou on privilégie le hadith sur le Coran.
Bon, des questions dans la salle, parce qu'il faut quand même que vous ayez votre dose, monsieur là. Attendez, le micro arrive.
Votre exposé sur le salafisme, enfin vos observations sur le salafisme me font penser un peu, et je voudrais savoir ce que vous pensez de l'analogie, au slavophile. Le repliement sur soi-même, il ne faut pas prendre ce qui est occidental, etc. Bon, je ne veux pas dire qu'il y a équivalence, mais quelle sorte de parallèle ressemblant ces différences vous pourriez tirer si ça a la moindre pertinence ?
Oui, non, c'est assez différent, bien que je me rappelle avoir tenu une école doctorale il y a quelques années à Beyrouth, en proposant l'islamisme comme invention de la tradition. Et le slavophisme, la slavophilie est une invention de la tradition, et en un certain sens, mais ça revient plutôt à autre chose. Non, c'est la... enfin, les réformistes dont on parlait du 19e siècle se revendiquaient du protestantisme. Luther, enfin, chez Afrani ou chez Rabdou, la référence à Luther est absolument fréquente. Hélas, bon, c'est, on peut même s'amuser, on trouve chez Afrani des références à Pierre l'Ermite, donc le prédicateur de la première croisade.
Et en lisant, comme quoi il faut vraiment être historien et revenir toujours aux sources, en lisant la revue Almanach, vous avez des textes de Rachid Rida qui disent, qui saluent l'effort anglais, qui considèrent que le réformisme musulman n'aurait pas été possible sans l'occupation anglaise de l'Égypte, et qu'il faut même remercier les Anglais d'avoir provoqué ces chocs qui permettent la naissance d'un esprit critique. Il y a presque une légitimation de l'occupation anglaise en Égypte par les résultats, par l'idée qu'ils nous ont sortis de la sclérose. Il y a des numéros d'Almanach, des textes très, très, très audacieux qui vont dans ce sens et qu'on n'aurait pas pu attendre, de ce que je sais, hein, des traditions slavophiles que vous évoquiez.
Oui. Vous avez parlé d'Afghanistan, de Massoud, vous avez parlé de Peshawar et tout. Vous n'avez jamais prononcé le mot taliban. Est-ce que c'est une mouvance? Où est-ce qu'il se situe? Est-ce que ça n'a rien à voir? Voilà.
Déobande.
Si, ça a à voir évidemment, issu de ce qu'on appelle de l'école Déobandi, de néo-Déobandi. La grande. Et au fond, c'est un mouvement qui vient des camps. À la fois des camps de réfugiés et des camps d'entraînement militaire, et de fait que c'est des passages de l'un à l'autre, puisque c'est un mouvement qui se crée chez les réfugiés afghans au Pakistan, et qui s'inspire aussi de l'école Déobandi, de la revalorisation du hadith, et qui font qu'aujourd'hui, l'une des clés aussi de l'opposition entre l'État islamique d'un côté, l'organisation État islamique pour être plus précis, et Al-Qaïda, c'est que les gens de l'organisation État islamique accusent Ben Laden d'avoir fait allégeance au Mollah Omar, chef des talibans, et ils considèrent que le Mollah Omar est un soufi, puisqu'il s'appuie sur l'école des Obandi, et donc que Ben Laden travaille avec les soufis, et donc il n'est pas légitime. Évidemment, les gens d'Al-Qaïda répondent que non, que le Déobandi s'appuie sur les gens du hadith, sont des salafistes dans la version moderne, et non pas des soufis. Mais ce rapport aux talibans est aussi, jusqu'à aujourd'hui, l'un des points de friction idéologique entre les uns et les autres. Vous savez, d'un espace que je connais un peu, qui sont les prisons françaises, tous les jours, les débats ont lieu entre prisonniers. Djihadistes sur ces questions. Ils sont au courant par les téléphones portables qu'ils gardent, qu'ils ont, qu'ils récupèrent, et ils communiquent avec l'extérieur. Et l'un des points de débat, c'est la question de l'attitude à adopter vis-à-vis des talibans.
Alors, pour revenir sur un point essentiel, nous avons toujours un tropisme arabe, puisque les Arabes sont nos voisins. Mais pour la compréhension de l'islam, il y a l'immense matrice indienne à partir de la seconde moitié du 19e siècle, c'est-à-dire après la révolte des Sipahis de 1857 et la suppression du sultanat de Delhi, qui était plus qu'une fiction au moment de sa suppression. Mais les musulmans indiens se sont retrouvés dans une double situation d'occupation britannique de l'Inde d'un côté et de la montée d'un nationalisme hindou qui prenait une tournée anti-musulmane de l'autre. Et donc, à partir de cette expérience historique, ils se sont structurés en différentes écoles, entre un moderniste très agressif jusqu'à un conformisme fondamentaliste. Mais toutes ces écoles indiennes ont été essentielles pour l'islam du XXe siècle. Alors nous, on vous dit toujours, ce sont les wahhabites, etc. Non, ils ont fait la même chose que les wahhabites, et comme ils étaient dans des masses humaines infiniment plus importantes que les masses humaines arabes, ils ont beaucoup plus produit de textes, d'écoles, etc., que les Arabes.
Et notamment l'école qu'on a appelée les gens du Hadith, qui naît précisément dans ce contexte indien et qui va former des chers arabes qui vont retourner en Arabie et constituer l'institution religieuse saoudienne. Il y a aussi une influence des gens dits du Hadith qui vont rentrer en Arabie saoudite et valoriser l'étude du Hadith à partir de leur expérience indienne.
Alors, j'ai fait un cours il y a 2 ans sur ce sujet, si mes souvenirs sont bons. Le micro arrive.
Bonjour. Je voudrais savoir, vous venez de parler là, des téléphones portables. Quel est le rapport de tous ces braves gens qui sont pleins de bonnes intentions aux inventions modernes telles que l'Internet, les armes, l'argent qui vient du pétrole qui ne sort pas de terre tout seul et différentes choses? Est-ce que ça leur pose un problème, disons, moral ou en tout cas intellectuel?
Alors, il y a eu un courant. Notamment celui dont se réclamait Juhayman al-Utaibi quand il a pris la grande mosquée de la Mecque, qui considérait que l'usage de la photo était interdit, qui considérait qu'il ne fallait pas représenter l'homme en photo, que c'était une... Mais au fond, ce courant a été assez rapidement oublié. Les technologies modernes sont des ressources, elles ne font absolument pas question. Les téléphones portables, messagerie, utilisation de Facebook sont absolument fondamentales dans la diffusion de l'idéologie. Et les textes écrits surtout par des intellectuels d'Al-Qaïda, entre guillemets, en francophone, sont de très très bon niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, ce sont des gens qui ont fait des études très manifestement. Vous avez, je ne devrais pas faire de la publicité pour eux, mais les éditions Nawa, par exemple, qui sont à Lyon, dans les milieux de l'immigration algérienne à Lyon, ont des intellectuels qui sont passés, qui ont une formation religieuse et une formation dans le système universitaire français, et qui écrivent des livres se réclamant de ce wahhabisme primitif pour montrer que les Saouds l'ont trahi, et qui montrent l'opposition historique entre l'idéologie des Lumières, dont la France est le centre, et le wahhabisme naît aussi à la même période, et qu'aujourd'hui, le wahhabisme doit triompher, et que de toute façon, derrière les Lumières, il y a du christianisme, et donc ils font la déconstruction de l'histoire institutionnelle française au profit, pour en montrer en quelque sorte à chaque fois les dimensions chrétiennes cachées, en détruire la légitimité, et appeler au ralliement au véritable islam. Ce sont des livres très nombreux, il y a aussi, c'est tout à fait... disponible sur Internet, on peut commander ces livres, et vous avez un franco-marocain, Haïssam Ait Yahia, par exemple, qui a énormément de succès. Et quand vous lisez le site, vous regardez le site, il y a des gars qui sont en université, qui disent « je suis dans un système mécréant, je suis en train de faire mon M2, j'hésite à faire une thèse, mais est-ce qu'on peut faire une thèse dans un système dont on ne reconnaît pas les valeurs ?» Et Ait Yahia lui répond « mais bien sûr ». Il faut au contraire prendre des positions de pouvoir, acquérir tous les instruments de la culture de l'ennemi pour mieux le combattre de l'intérieur. Et donc c'est un phénomène assez nouveau. On a affaire à une idéologie suffisamment souple pour trouver des modalités de diffusion selon les publics, mais il existe un public d'intellectuels qui construit sa propre doctrine, l'adapte à la réalité française et maîtrise aussi bien l'arabe que le français, et s'exprime très facilement en français dans des sites, alors j'ai, à ma grande honte, qui me citent également, non pas comme cible pour le moment, mais pour, ça c'est chez les gens d'Al-Qaïda, pour dire Rougier a dit sur Abdallah Azam, donc voilà, pour trouver une validité ou une validation externe dans leur débat interne. J'ai eu la surprise de me retrouver cité dans des sites, mais qui ne sont pas faciles, qui sont cryptés, mais qui sont extrêmement riches. Alors, le caractère douteux des références citées.
Mais de façon plus générale, là, c'est toutes les problématiques de ce qu'on appelle les mouvements antimodernes dans la pensée occidentale ou dans la culture occidentale. Les antimodernes rejettent la société moderne, mais utilisent tous les moyens de la modernité pour la combattre.
Oui. Pourquoi est-ce que l'un des théoriciens du djihad, tel que Abdallah Azam, a éprouvé le besoin, après son passage en Arabie saoudite, d'aller s'expatrier en quelque sorte en Afghanistan plutôt que de retourner prêcher dans sa propre paroisse, à savoir d'essayer plutôt de soulever des masses, entre guillemets, arabes, sur le conflit israélo-palestinien, par exemple.
Vous avez tout à fait raison, et on lui a dit, et elle répond à ça. Il dit qu'il n'oublie pas du tout la Palestine. Certains m'ont dit qu'il avait contribué financièrement à distance à la création du Hamas, et qu'il, dans la revue Al-Jihad, il y a l'idée « la Palestine reste centrale pour nous ». Nous sommes en train de construire une brigade de l'expérience militaire, d'acquérir une idéologie de combat et un sens de l'organisation qui, ultérieurement, nous permettra de reprendre la lutte en Palestine. Et il accuse les régimes arabes, il dit que les régimes arabes sont, de toute façon, à la fois l'Égypte, la Jordanie, les gardiens des frontières israéliennes. Et donc, nous ne voulons pas nous battre contre ces régimes pour le moment. Donc, c'est toujours l'idée qu'il doit être un candidat du consensus, mettre l'accent sur la lutte contre l'Union soviétique. Il a aussi écrit des livres qui ont été des best-sellers, hein, qui étaient Ayat al-Rahman fil Jihad al-Afran, donc les signes du miséricordieux dans le jihad afghan, où il a été le premier à montrer que les soldats russes étaient des corps puants en décomposition, alors que les martyrs étaient intacts pour aller au paradis. Ces idées-là ont été répandues, et ensuite il a écrit Ilhaq bil Kafila, rentre dans la caravane pour inciter au jihad. Mais son idée était de dire, pour le moment, la lutte est provisoirement gelée sur le terrain palestinien à cause des régimes arabes. Il ne faut pas lutter contre ces régimes parce que cela va nous diviser. Luttons contre un ennemi extérieur pour le moment. Quand le rapport de force sera modifié, nous pourrons à ce moment-là reconquérir la Palestine. C'était le raisonnement, c'était de dire, de toute façon, la Oumma est une, la Palestine peut attendre, en attendant, allons en Afghanistan, où les conditions de la lutte sont autorisées, et une fois que nous aurons mobilisé la Oumma, elle sera prête, à cause de la pression de la base sur les dirigeants, à nous permettre de reprendre la lutte en Palestine. C'était ça le raisonnement. Mais on lui a reproché, au contraire, de détourner l'énergie sur un front périphérique. Lui, toute sa stratégie a été de construire, de transformer la périphérie en centre, en considérant qu'une fois que cet effort sera accompli, le changement des sociétés autorisera le passage à la libération, entre guillemets, de la Palestine.
Question par là.
Merci. Une question sur le soufisme. On a vu très récemment, avec les attentats dans le Sinaï, le combat des islamistes contre des gens prétendument soufistes. Il me semble qu'on avait vu la même chose à Tombouctou, enfin avec une notion peut-être un peu différente, d'islam africain. Quelle est l'influence du soufisme réellement dans les populations musulmanes aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment un ennemi, une force constituée contre l'islamisme?
C'est l'un des points où le salafisme wahhabite, si vous voulez, rejoint le salafisme djihadisme. C'est ce qu'ils appellent la lutte contre les adorateurs des tombes, le refus de l'intercession. Alors qu'ils font une forme d'intercession, puisque dans leur croyance, un acte de martyr peut sauver 70 personnes, même des non-croyants, des gens de sa famille qui n'ont pas une foi très, très, très solide de leur point de vue. La lutte contre l'intercession auprès d'un saint, la visite de tombeaux, ça c'est l'un quand même des continuums, j'allais dire, entre le salafisme classique, wahhabite récupéré, ou le wahhabisme, et un mouvement comme l'État islamique. C'est plus fort dans l'État islamique que chez Al-Qaïda. Encore une fois, Al-Qaïda, c'est plutôt l'idée qu'il faut réunir toutes les facettes du spectre dans le monde musulman sans rentrer dans les querelles internes et en orientant la lutte contre l'ennemi américain et les occidentaux en général. L'État islamique, c'est l'idée qu'il faut purifier l'islam et donc lutter contre les mouvements soufis ou toutes les expressions soufis qui sont pour eux des déviances et des déviances qui, s'il n'y a pas de repentance, entraînent la mort. Et c'est aussi l'un des points de distinction entre ces deux courants djihadistes. Non seulement Ben Laden ne souhaite pas qu'on soulève ces débats internes, mais il ne souhaitait pas non plus qu'il y ait territorialisation. C'est-à-dire que l'idée, et c'est toujours la stratégie de Zawahiri, c'est d'avoir un travail clandestin. Alors que la sensibilité incarnée par l'État islamique, d'abord par Zarqawi et ensuite par l'organisation État islamique, c'est de territorialiser. Et au tout début, c'est-à-dire d'avoir une base territoriale, de prendre des villes, de prendre des et de s'affirmer en mettant un drapeau. L'invention du drapeau est aussi quelque chose de très moderne, quasiment de marketing, leur drapeau, qui a été un coup assez génial, parce que ça a donné une identité à leur mouvement immédiate, ce fond noir avec ce drapeau blanc, avec des lettres noires, avec la shahada à l'intérieur, était un coup. Ce drapeau, ils l'ont inventé en 2007, après la mort de Zarqawi. Et c'est aussi quelque chose de très moderne qu'ils ont mis en avant pour affirmer leur identité. Le choix du territoire, c'est intéressant. Ben Laden ne cesse de dire « ne vous territorialisez pas, ne prenez pas de ville ou n'affirmez pas un émirat ou une existence parce que vous allez être immédiatement bombardé, vous êtes beaucoup trop vulnérable ». Les autres, c'est de dire, c'est ce qu'ils ont fait au début du conflit syrien, on va pas lutter immédiatement contre Bachar el-Assad, on va construire l'espace islamique, l'espace de la pureté, et à l'intérieur duquel on va détruire les mausolées soufis, toutes les formes de déviance par rapport à notre conception de l'islam, et ensuite, grâce à ces bases territoriales, nous combattrons les mécréants. Vous voyez cette différence de stratégie qui explique la raison pour laquelle ils ont exécuté immédiatement tous ceux qui ne pensaient pas comme eux, ou ils ont détruit des mausolées, mais ça, les wahhabites avaient fait la même chose hein, en leur temps, détruisant la tombe du prophète, etc. Il s'agit de détruire les tombes et de n'avoir d'adoration que pour Dieu. Le principe de l'unicité divine, à cause d'Abu Mohammed al-Maqdisi, devient un principe de mobilisation. Seul Dieu doit faire l'objet d'une adoration. Et ce n'est pas seulement l'unicité de Dieu, de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est de dire que seul Dieu doit faire l'objet d'une adoration. Et à ce moment-là, ça signifie que tout ce qui peut être une autre forme d'adoration doit être combattu. Et donc cette notion d'unicité divine devient un principe de mobilisation, entraînant la lutte contre toute forme de déviance.
Dernière question, là.
Oui, une question relative à l'Arabie Saoudite. Vous avez parlé du djihadisme chiite appuyé sur un État l'Iran comme un facteur de structuration. À l'inverse d'un djihadisme sunnite qui est un facteur de décomposition. Mais justement, comment vous voyez la position de l'Arabie Saoudite qui, pour moi, a l'air complètement désemparée et sur la défensive, alors qu'elle devrait être, au contraire, devrait se penser comme le premier acteur restructurant de la communauté et voir le djihadisme sunnite aujourd'hui comme une grande menace pour elle.
Ils ont deux menaces, très clairement. La menace iranienne est omniprésente chez eux et la menace djihadiste. Et j'avais rencontré il y a quelques jours le nouveau secrétaire général de la Ligue islamique mondiale qui nous renvoie en quelque sorte la patate chaude puisqu'il nous dit « mais ce n'est pas nous, l'organisation État islamique ». Il ment hein, en disant « la majorité des membres de l'État islamique viennent d'Europe ». Ce qui n'est pas exact en termes de chiffres, mais il y en a une proportion. Il y a à peu près 20 000, 25 000 combattants étrangers. Enfin, il y avait à peu près 20 000, 25 000 combattants étrangers et à peu près 4 000, 5 000 maximum venaient d'Europe. Quand je dis Europe, c'est France, Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne. Et donc, ils voient bien, ils sentent bien la menace. La question, le défi pour Mohamed Ben Salman, MBS comme on dit, c'est qu'il est en train de centraliser le pouvoir en mettant sous résidence surveillée les princes, les hommes d'affaires. Il fait ce que Poutine a fait en Russie. C'est-à-dire, c'est l'idée que si l'homme d'affaires ne travaille pas pour lui, il ne peut pas être un opposant ou un concurrent. Le pouvoir doit être centralisé. On peut faire des affaires, mais les affaires doivent bénéficier au pouvoir. Et ce pouvoir doit s'unifier. Donc il unifie la décision politique et le pouvoir économique. Je pense que c'est ça, Mohamed Ben Salman, pour lutter contre l'Iran. Le problème, c'est sur quels instruments, sur quels outils il peut s'appuyer à l'extérieur du royaume, et même à l'intérieur, pour lutter contre l'Iran. C'est très difficile de ne pas repasser par des salafistes, anti-chiites, etc., avec le risque d'être à son tour et d'être, de faire l'objet d'une, d'être exposé à l'accusation de nourrir le djihadisme. Comment en Syrie, en Irak ou au Liban se mobiliser contre l'Iran, sachant qu'ils ont tenté de le faire au Yémen en remettant en selle Ali Abdallah Saleh, et que les houssistes ont très bien compris ce qu'ils étaient en train de faire et ont tué Ali Abdallah Saleh. Pour dire, c'est une façon de dire aux Saoudiens, très bien, mais dans ce cas-là, trouvez-vous quelqu'un qui n'ait pas une légitimité déjà locale. Ali Abdallah Saleh, ça a été l'ancien président. Et donc, ça veut dire aider des groupes qui seront des groupes salafistes, probablement des groupes salafo-djihadistes. Alors, on essaiera de dire qu'ils ne sont pas vraiment djihadistes, mais ce sont des groupes djihadistes. Ou, comme en Syrie, les groupes Ahl al-Sham, des groupes qui sont aussi des groupes djihadistes, pas dans la tendance d'Al-Qaïda ni de l'organisation État islamique, mais ils veulent mettre en place la loi religieuse, ils sont tous barbus, ils ne sont pas très fréquentables quand même. Et nous aussi, on a été soumis à cette contradiction. Sur qui on va s'appuyer pour lutter contre Bachar? Et les Iraniens, de façon très, très, très subtile, à la fois très violente et très subtile, quand il y a un interlocuteur qui a une légitimité et qui n'est pas islamiste, ils le tuent. Et ensuite, ils disent, écoutez, aux Occidentaux, écoutez, si nous, on est quand même un facteur de stabilité, c'est regarder les autres, c'est pas possible, vous pouvez pas vous appuyer sur des gars pareils, ils sont barbus, ils vont mettre des bombes chez vous. Et le discours prend, parce qu'il crée la réalité de ce qu'ils veulent démontrer. Et là, Mohamed Ben Salman fait face à une contradiction. Sur quels instruments, quelles forces s'appuyer dans sa stratégie anti-iranienne quand les acteurs non-islamistes en milieu sunnite ont été neutralisés, pour utiliser une métaphore, liquidé. Un euphémisme, liquidés. Et ça, c'est vraiment systématique. Donc, on a une situation tragique. Une certaine réussite iranienne dans l'élimination d'interlocuteurs sunnites possibles et de relais saoudiens possibles. Ils l'ont fait au Liban, ils viennent de le faire au Yémen. Et ça, c'est une politique pensée. Hein. C'est évidemment... De la même façon, ils ont aussi éliminé... C'est leur point commun, en quelque sorte, avec les djihadistes sunnites. Si vous lisez Idarat al-Tawahhush, qui est le livre qui était lu par les cadres de l'État islamique, qui s'appelait « La gestion de la barbarie », vous avez aussi la stratégie « Éliminer les personnalités charismatiques dans les espaces sociaux que vous voulez conquérir. Identifier les familles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. » Il y a une espèce d'orientalisme djihadiste. Et si vous avez quelqu'un qui a une forte personnalité, une forte légitimité, qui est respecté de la population, s'il n'est pas avec vous, éliminez-le. Et si j'ose dire, si je fais cette comparaison, je pense que celui qui a été l'un des premiers, mais on ne l'a pas compris de cette manière, c'est au fond les efforts iraniens d'élimination, de délégitimation, d'affaiblissement du processus israélo-palestinien et d'Arafat, décrié comme traître, etc., ça a été aussi une dynamique où, à travers la destruction du processus de paix, on avait aussi déjà la destruction des premières structures politiques arabes. C'est-à-dire, tout à coup, un dirigeant qui se réclame de valeurs État territorial, droit international, qui a sa légitimité combattante à cause de son passé à Beyrouth en 82, qui peut négocier avec les Israéliens et reconnaître les résolutions internationales, mais qu'il faut éliminer, d'une certaine manière. Et en éliminant Arafat, politiquement, en discréditant le processus de paix, c'était des efforts de Téhéran de manière constante et de leur relais, ont détruit cette possibilité d'émergence ou d'affirmation d'un leader arabe sunnite et non islamiste.
Ce qui nous prouve à contrario que le rapport à l'Occident est toujours le rapport fondamental, puisque on veut éliminer les gens qui sont entre les deux. Bien, remercie tout le monde, et Bernard en particulier, évidemment.